Bonjour à tous. Avant de vous laisser écouter l'épisode d'aujourd'hui, juste un petit disclaimer, car cet épisode a été enregistré en septembre et certaines dates dont parle Christophe Galfard sont déjà passées. Voilà. Profitez bien. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue sur Lisez la Science. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Sébastien Carasso, qui va m'aider dans la lourde tâche d'interviewer Christophe Galfard, l'auteur.
Salut tout le monde.
L'auteur de L'univers à portée de main chez Flammarion. Donc bonjour Christophe, bonjour Sébastien. Merci à tous les deux d'être avec moi.
Et merci à toi pour l'invitation. Tu n'as pas à t'en habituer, moi, ici.
Pour rentrer dans le vif du sujet, Christophe, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un peu plus en détail pour les auditeurs qui te connaîtraient pas encore ?
Eh bien, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Que j'ai fait des études, j'ai une formation de scientifique pur et dur, c'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingénieur en France, ensuite je suis parti en Angleterre, à Cambridge, où j'ai eu la chance et l'honneur de faire une thèse de doctorat en physique théorique sous la direction du célèbre professeur Stephen Hawking. J'ai travaillé avec lui sur les trous noirs, sur l'origine de l'univers et tout ça. J'ai voyagé pas mal avec lui un peu dans le monde entier pour le suivre, surtout dans des universités et travailler avec d'autres scientifiques un peu partout, et aussi pour préparer des conférences grand public qu'il donnait devant des publics qui contenait peut-être 10 000, 15 000 personnes qui venaient, et ça m'a donné énormément envie, et j'ai vu la nécessité aussi de transmettre le savoir scientifique au grand public. Et c'est là-dessus que je suis parti ensuite, du coup. J'ai commencé par coécrire un livre pour enfants avec lui, qui s'appelle « Georges et les secrets de l'univers ». Ensuite, j'ai écrit une trilogie pour enfants qui s'appelle « Le prince des nuages ». Et là, c'est la première fois que j'ai écrit un livre pour adultes, une sorte de « pop science », comme ils disent les Anglais, un livre de vulgarisation scientifique pour expliquer un petit peu, c'est très modeste comme entreprise, d'essayer d'expliquer tout ce qu'on sait sur l'univers à travers un voyage. Voilà, en gros.
Très bonne description, je crois. Et qu'est-ce qui t'a, toi, à choisir ce parcours scientifique, finalement ?
Au départ,
oui,
au départ,
oui.
Personnellement, c'est très personnel hein, comme réponse, parce que j'imagine bien que c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour moi, il n'y avait pas il n'y avait pas énormément de disciplines qui étaient aussi exaltantes et aussi demandantes intellectuellement que la physique théorique ou les mathématiques. Il y a une sorte de plaisir et de jouissance à partir dans ces domaines-là, qui plus est, qui parfois permettent d'appréhender le monde et la réalité dans laquelle on vit. Ça, je trouvais ça absolument dingue qu'on ait une discipline pareille. Et intellectuellement, je trouvais ça plus que satisfaisant. Du coup, je suis parti là-dedans. Et en plus, c'est très poétique, il me semble.
Et donc, tu l'as expliqué, t'as participé à l'écriture de livres plus pour un public plus jeune. Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de cette fois-ci partir sur un ouvrage peut-être plus destiné à des adultes cette fois-ci ?
Premièrement parce que j'avais envie de toucher tout le monde. Deuxièmement parce que j'ai pas envie de n'écrire que pour les enfants. J'aimerais bien écrire pour tout le monde. Donc j'ai commencé par les enfants, ce qui est pas aisé. Et du coup, d'une certaine manière, peut-être que j'ai appris grâce à ça à écrire simplement, à utiliser des mots qui sont pas trop compliqués, des phrases qui sont pas trop compliquées, mais en même temps, pour réussir à dire des choses qui sont profondes et qui correspondent à un savoir d'aujourd'hui. Et je pense qu'en ayant appris grâce au livre pour enfants, ça m'a permis d'écrire un livre pour adultes qui est vraiment, j'espère en tout cas, accessible. Je dis pas qu'on peut le lire en écoutant la radio ou en faisant son jogging, mais en tout cas, c'est un livre qui est accessible à absolument tout le monde sans qu'on ait besoin d'avoir des connaissances préalables. Aucune, il me semble. Je sais pas ce que vous en pensez, tous les deux.
Ah oui, c'est très accessible. Hein. Bon, j'ai lu ça en été sur la plage qui était littéralement le lieu de où se passe le livre, enfin au départ en tout cas. Donc c'était plutôt approprié. Mais j'ai pu me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaissait pas la physique et qui lisait le bouquin comme il l'est. J'ai trouvé ça très très efficace. D'ailleurs, je me suis surpris à apprendre pas mal de choses, notamment sur la théorie quantique des champs, c'est une discipline que j'avais jamais vraiment apprise au niveau théorique. Enfin, j'avais essayé avec un bouquin de Peter Miloney, là, le vide quantique, mais bon, c'est pas forcément de mon niveau, on va dire. Mais, donc, c'était une très très bonne introduction à la théorie quantique des champs. Il y avait des très très belles analogies et les limites qu'on donne à certaines analogies. Donc ça, c'est assez rare dans un livre de vulgarisation. Et je salue pour l'effort de dire que c'est de préciser que ces analogies que tu utilises sont à prendre avec des pincettes.
Il existe un langage pour parler de ce que la science connaît aujourd'hui, et ce langage, c'est les mathématiques. Si les mots étaient parfaits pour les utiliser, on n'aurait pas besoin des mathématiques. C'est pas le cas. Donc là, en l'occurrence, dans tous les livres ou même dans les discussions qui soient un petit peu de vulgarisation, voire à l'intérieur de congrès, même de séminaires ou de conférences, dès qu'on se met à utiliser des analogies et des mots, il y a forcément une sorte de traduction, donc soit une petite perte par rapport à ce qu'on dit, soit une approximation supplémentaire, mais on n'a pas vraiment le choix. Si on veut lire un livre en chinois, il faut le lire en chinois. Dès qu'on lit une traduction, elle peut être très belle la traduction, mais ce ne sera jamais exactement le même livre.
Alors, c'est vachement intéressant que tu parles de traduction, parce que justement, c'était une question que j'avais. C'est un livre que tu as publié, si je comprends bien, d'abord en anglais d'ailleurs, en plus.
Écrit en anglais, c'est vrai, publié avant, non, parce qu'il est sorti avant-hier en Angleterre.
Ah.
Donc, je l'ai effectivement écrit en anglais, il a été traduit à toute allure en français. J'ai retravaillé toute la traduction, du coup, c'est pas les mêmes livres. Et il est sorti en premier en français en juin dernier, alors que la version anglaise, l'original, entre guillemets, est sortie là, cette semaine, en Angleterre. Je reviens d'ailleurs d'Écosse où j'ai fait ma première conférence devant un public écossais.
Et justement, comme tu dis, donc finalement, ça aboutit à deux livres relativement différents. Comment ça se passe, ce travail de traduction? Parce que pour avoir lu notamment L'univers élégant de Brian Greene ou La réalité cachée, c'est vrai que, enfin, je sais pas, peut-être vous comme moi, vous avez vu Big Bang Theory, dans la version anglaise, à un moment, il y a Brian Greene, qui est dans un épisode, qui parle d'une histoire de menu pour expliquer le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et on retrouve pas ça dans la version française, donc j'étais un peu déçu. mais comment ça se passe justement ce travail de traduction?
Je sais pas exactement comment répondre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que différentes cultures ont différentes spécificités. Mais là, on va parler de la langue elle-même. Moi, j'avais envie que le livre en français soit de moi en entier. Et du coup, les phrases qui étaient traduites un petit peu où c'était plutôt l'avis et le point de vue du traducteur ou de la traductrice en l'occurrence, j'avais envie que ce soit vraiment moi tout du long. Donc il y a eu un gros travail au départ de traduction où les plus grands efforts ont été faits pour être assez fidèle au texte. Et après, moi, j'ai relissé tout ça, j'ai essayé de voir comment en français, ou même juste ma sensibilité, comment j'avais envie de raconter l'histoire en français, c'était effectivement un petit peu différent. Alors pour Big Bang Theory, j'en sais rien, c'est peut-être des problèmes de droit aussi, hein. Ça peut être autre chose, mais en tout cas pour mon livre, c'était vraiment c'était ma propre sensibilité en tout cas. C'est ça l'avantage de parler les deux langues, c'est que voilà, enfin surtout d'être français et de parler français, c'est que je pouvais travailler le texte en français. Normalement, je suis pas sûr que ce soit toujours génial pour les traducteurs d'avoir un auteur qui repasse par derrière, mais en tout cas, moi, c'était nécessaire.
Et au niveau de tes sources d'inspiration en matière de vulgarisation, tes auteurs fétiches, ils sont plutôt francophones ou anglophones?
Ben, Étonnamment, j'ai pas lu énormément de vulgarisation scientifique. J'en ai lu quelques-uns qui sont pas dans le domaine, qui sont pas dans mon domaine. Parce que, voilà, pour ce qui est de mon domaine, je préfère lire des bouquins théoriques ou des papiers, des parutions scientifiques. Pour ce qui est du reste de la de vulgarisation scientifique, j'aurais dû prendre des notes avant d'arriver parce que je me souviens jamais des noms des livres. Mais par exemple, il y en a un que je trouve extraordinaire. Je vais essayer de le retrouver pendant que je traîne pour répondre à la question. C'est la planète émeraude, je crois que ça s'appelle. Et le nom de son auteur, c'est, ça va venir dans une seconde. Si jamais je le retrouve. Non, je vais jamais le retrouver. Bon, c'est pas très grave. En tout cas. Ah si, c'est ça. De David Birling. Ça, je trouve ça absolument génial. C'est sur l'histoire des plantes sur notre planète. Je trouve ça extraordinaire. Il y a un autre livre que je trouve fabuleux, en revanche, lui, qui a une vision, qui essaie de donner une vision absolument globale de tout ce qu'il sait, c'est Une histoire de tout ou presque de Bill Bryson. J'imagine que vous l'avez tous les deux lu, c'est carrément. Ça, j'aurais adoré l'écrire, celui-là, par exemple.
Ah, non seulement on l'a lu, mais on en a parlé lors d'un précédent épisode dans lequel j'étais invité dans le même podcast ici.
Parce que ce livre-là, non seulement j'aurais aimé l'avoir écrit pour l'avoir écrit, parce que c'est génial d'avoir écrit ça, mais surtout pour avoir fait les recherches, pour apprendre tout ce qu'il y avait à l'intérieur, pour en travailler, pour savoir tout ce que Bill Bryson a appris. Je trouve ça extraordinaire. Et je compte bien faire ce genre de choses, mais un livre à la fois, pas tout dans un livre.
Mais d'ailleurs,
De continuer à apprendre, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
ta méthode à toi pour le processus de recherche dans ton livre, ça s'est passé comment à peu près?
Ben alors là, c'est un cas un peu particulier parce que la plupart des choses dont je parle dans le livre, je les connaissais. La recherche, elle a pas duré très très longtemps. Je me suis évidemment replongé dans les textbooks, les livres de cours que j'avais quand j'étais en thèse. Je me suis évidemment inspiré de papiers que j'avais lus et c'est surtout, j'avais dans ma tête la structure du voyage que j'avais envie d'offrir au lecteur. Et puis à chaque fois que j'avais un doute sur quelque chose, je revenais dessus. Et une fois que j'ai écrit tout ça, je l'ai envoyé à mes anciens profs à Cambridge et j'en ai discuté avec eux pour vérifier que j'avais pas fait de que je m'étais pas fourvoyé ou si le niveau de vulgarisation était pas tel que ça devenait faux et tout ça. Et du coup, j'en ai discuté avec eux et au final, je suis confiant qu'il y a absolument rien qui puisse mener à une mauvaise compréhension de ce qu'est la science d'aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez génial. Il y a une chose que j'avais pas compris. Bon, pour être honnête, il y a une chose où je m'étais un petit peu trompé dans le livre, et ça, c'est pour dire à quel point certains de mes professeurs sont classe. C'est que je leur fais lire le chapitre en question, ils me disent non, c'est pas exactement ça, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, je leur dis ah bon, mais je croyais que c'était ça. On commence à discuter, je sors mes papiers, j'essaie de leur, le, je leur fais deux, on fait deux, trois équations, je leur montre le truc. Et ils me disent oui, mais là, tu te trompes sur cela. Et là, ils s'arrêtent, ils me regardent. Et d'ailleurs, on est vraiment désolé, parce que si t'avais pas compris, c'est de notre faute. Et ça, je trouve ça assez classe.
C'est le flegme britannique, ça.
Ouais, ils sont pas tous anglais, mais c'est quand même chouette. Il y a cet esprit de professeur qui a vraiment envie de faire comprendre les choses. Et ça, je trouve ça chouette. Et j'espère avoir gardé cette envie. Enfin, en tout cas, je l'ai, cette envie. Avec cette, une certaine, cette, j'ai appris aussi une certaine modestie, disons, par rapport à ces savoirs-là, au contact de génie. J'ai eu plutôt de la chance.
Ben justement, tu parlais de génie, mais ça fait quoi de travailler avec Stephen Hawking, du côté scientifique et aussi du côté humain, de travailler, de prendre part avec son aura de chercheur et d'être humain exceptionnel?
Alors, effectivement, tu fais bien de séparer les deux parce qu'ils sont vraiment séparés. Avant de commencer à travailler avec lui à Cambridge, les trois quarts des gens qui sont là connaissent Stephen Hawking, mais comme ça. Surtout pour ses travaux scientifiques. Et dès qu'on est dans un cadre universitaire, tout le côté star mondial des sciences, il disparaît complètement. C'est vraiment, il y a pas le regard de ah c'est lui qui passe à la télé et tout ça. Non, on est vraiment dans une ambiance de recherche, de travail, et du coup tout le côté médiatique, on ne le perçoit même pas. Bien qu'il y ait des équipes de télé qui viennent toutes les semaines dans le laboratoire, mais ça on le remarque pas. On est vraiment focalisé sur la science 24 heures sur 24. Le cerveau il marche pour essayer de faire de la recherche, de comprendre. Et il y a beaucoup de geeks hein, et de nerds dans ces milieux-là. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir une équipe de caméra une équipe de télé qui est en train de filmer quelque chose, et il y a 15 scientifiques qui vont passer entre la personne interviewée et la caméra sans même remarquer qu'il y avait une équipe qui était là. Ça a créé quelques problèmes par moment, mais moi je trouve ça plutôt chouette. Il n'y a pas ce côté-là. Donc par rapport au côté scientifique, Hawking c'est une des stars de la physique du XXe siècle, encore aujourd'hui, mais surtout du XXe siècle. Mais il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont extraordinairement brillants. Il y en a plein. Peut-être de ce niveau-là, je dirais qu'il y en a une cinquantaine qui sont vivants sur Terre. Et travailler avec ces gens-là, c'est très particulier. Et ça dépend un petit peu de la personnalité, évidemment, du chercheur en question. Stephen a cette chose que tous n'ont pas, c'est qu'il est extrêmement proche de ses étudiants. On travaille avec lui quasiment tous les jours. On déjeune avec lui une fois par semaine pour discuter de papiers qui sont parus, etc. On voyage avec lui. J'allais dire limite, on habite avec lui. On est extrêmement proche de lui pour discuter, pour avancer. C'est une sorte de petite famille. C'est pas le cas pour tous les chercheurs. Il y en a qu'on rencontre le jour où on... Il y a des directeurs de thèse qu'on rencontre le jour où on soutient sa thèse. Et il y en a d'autres avec qui on est tout le temps. Donc par rapport à l'aspect scientifique, il y a quelque chose de très présent, de très agréable, de très familial. Et ensuite, sur les questions scientifiques abordées, là pour le coup, travailler avec des gens comme ça, ils s'en fichent absolument complètement que vous obteniez votre thèse en faisant un petit calcul sympathique qui vous montre que vous avez compris 2-3 techniques. Ça, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est vous emmener immédiatement au problème qui les intéresse eux. Ce qui fait que entre le moment où on est pris en thèse et la semaine d'après, on est tout de suite propulsé au plus gros problème qui existe dans la science d'aujourd'hui, en physique théorique en tout cas. C'est pas simple. On n'endort pas, on travaille tout le temps, etc. C'est pas dire qu'on y arrive immédiatement, ça prend quand même du temps. Moi j'ai commencé à comprendre ce que Stephen me disait en gros au départ. J'avais 6 mois de décalage entre ces questions et le moment où je comprenais la question, et évidemment au bout d'un an, un an et demi, le décalage il est plus que d'un jour et après c'est en direct et on peut discuter. Donc ça c'est quelque chose, c'est à la fois une chance énorme d'être propulsé immédiatement dans les endroits les plus mystérieux et du coup les plus excitants de la recherche, en physique théorique en tout cas, et c'est en même temps quelque chose qui n'est pas simple. Et qui n'est pas... c'est pas simple. Après, pour le côté médiatique, personnellement, c'est quelque chose que j'aimais pas du tout quand j'ai commencé à faire de la recherche. Je détestais parler en public, je détestais avoir un contact avec l'extérieur et tout ça. Et puis, j'ai réalisé petit à petit l'importance et l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés, sur la façon dont les gens peuvent même se sentir bien en ayant appris des choses sur notre univers, en partageant le savoir de notre temps. Et à partir de là, je me suis dit, je vais essayer un petit peu moi aussi. Et j'ai fait une ou deux émissions de radio en Angleterre à l'époque qui étaient catastrophiques. J'ai oublié de respirer, je me suis coupé. Ils ont arrêté l'émission en disant, on comprenait déjà rien avant, on comprend encore moins maintenant. Et du coup, j'ai pris des petits cours de théâtre et des trucs comme ça pour essayer d'apprendre à parler, quoi, et à être un petit peu à l'aise quand il y a des gens qui nous regardent. Aujourd'hui, ça va. J'ai bien appris. Je me suis bien forcé pour réussir à faire ça. Et maintenant, ça m'amuse et ça me plaît, et j'ai bien envie de continuer là-dessus. Et l'école Hawking, par rapport à la médiation, par rapport à la science, c'était un, c'est une fois de plus, c'était une école extraordinaire.
Par rapport justement à ça, tu disais les émissions, etc. On aura l'occasion peut-être de te retrouver bientôt quelque part. Enfin, si les auditeurs ont envie de savoir, tu dis que t'étais en Écosse pour présenter ton livre. Tu vas faire ce genre de choses aussi en France
Alors oui,
prochainement?
à peu près, je peux donner quelques dates là maintenant, si tu veux.
Ah ouais, avec plaisir,
Sur...
ouais.
Donc le 5 septembre, je suis à Morges en Suisse, dans le théâtre des Trois Petits Tours, je crois que ça s'appelle comme ça, en début d'après-midi. Tout ça, c'est sur mon site ou sur ma page Facebook, j'ai mis les dates. Le site, c'est christophegaffard.fr. Et à Morges en Suisse le 5 septembre, à Nancy le 12 septembre, là aussi, il y a une conférence, c'est gratuit. Je crois que c'est à l'aquarium de la ville. C'est un grand endroit. Je crois qu'il y a 300 places. Le 19 septembre, je suis à Guernsey, sur les îles anglo-normandes. Le 26 septembre, je suis à Toulon. Le 30 septembre, à Bordeaux. Le 3 octobre, à Montsartou. Le 10 octobre, à Lille. Le 17 octobre, à Saint-Étienne. Ensuite, normalement, début novembre, à Brive. Ensuite, je fais Pau le 21 novembre. Je serai à Radio France pour le salon le 28 novembre. À Roquebrune le 5 décembre. Et je vais faire une grande conférence qui sera à Paris, au Théâtre des Mathurins, le 14 décembre. Alors là, en revanche, il faut prendre des billets. Bon, ça, désolé, c'est un peu long comme listing. Et ce n'était que provisoire. Et c'est même pas exhaustif encore, mais je mets tout ça sur mon site. Et en gros, Sébastien est déjà venu à une de ses interventions. Il s'est croisé à Paris. Et je conseille et j'invite vivement tout le monde à venir si, surtout, ils ont des questions à me poser. Parce que là, on peut discuter et on peut partir assez loin dans l'espace.
Bah super, hein, je pense que là il y a de quoi faire pour pouvoir te rencontrer avec tout ça, même plusieurs fois pour ceux qui sont les plus fanas.
Et après toute cette tournée autour du monde pour la promotion de ton livre, tu as des projets pour l'avenir sur d'autres formats,
Alors,
ouais.
oui. Ah oui, et sur le même format, je vais pas tarder à enclencher un nouveau livre dont je ne vous donnerai pas la teneur tout de suite, parce que si jamais je change d'avis, je vais avoir l'air d'un crétin. Mais là, je vais le commencer dans les jours qui viennent. Et j'aimerais bien, effectivement, pour répondre aussi à David tout à l'heure, et à toi, de faire d'autres formats, que ce soit radio ou... télé ou d'autres choses, mais ça c'est un autre c'est un autre combat, parce que pour réussir à mettre de la science comme on l'aime à la télé française, faut quand même se battre. Nous on va y arriver, on va y arriver. Alors
Faire
voilà.
un cosmos à la française, peut-être.
Ben, c'est marrant parce que de refaire Cosmos à la télévision française, je l'ai proposé à plusieurs chaînes, il y a 8 ans, il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a 5 ans, et à chaque fois on me disait que ça n'intéresse personne. Et finalement, ça a été fait par Neil deGrasse Tyson, qui est excellent.
C'est juste
J'ai
génial, ouais, c'est clair.
Mais on aurait pu le faire avant. J'ai eu l'idée longtemps avant ça. Je suis pas le seul, mais dans mon dossier, c'était vraiment de reprendre Cosmos, 13 épisodes, avec le premier sur la falaise et tout ça. Donc, on aurait pu, nous autres Français, être devancés les Américains sur ce coup-là, mais on n'y est pas encore.
Déchis de potentiel. Moi, ça me déprime.
Non, faut se battre. Faut pas que ça nous déprime. Rien que toi, rien que David et d'autres personnes comme Florence Porcel, il y a quand même un petit groupe de jeunes qui débarquent là et qui vont transformer tout ça. Pour l'instant, l'outil, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux et tout ça. Mais je suis convaincu qu'à nous tous, on va réussir à un moment ou à un autre à transformer l'image de la vulgarisation scientifique dans le beau pays. Le truc, c'est qu'il y a un tel engouement du grand public qu'on voit dans les conférences, qu'on voit dès qu'on va à gauche à droite, que je vois dès que je fais une émission de radio, vous avec vos blogs et tout ça. L'engouement, il est colossal. Et il n'y a rien. dans les grands médias audiovisuels. C'est pas possible que ça change pas. Bah, faut pas baisser les bras, Sébastien.
Ça commence doucement à arriver. J'ai vu passer les adaptations du blog de Marion Montaigne avec le professeur Moustache. Ce qui commence à arriver à la télé, et c'est vachement bien foutu, et avec un peu de chance, ça peut peut-être enclencher pour d'autres, quoi.
Bah oui, on l'espère en tout cas. Et si je connais pas vraiment tout le monde encore, mais il y a une petite communauté que je soutiens à fond.
Oui, il y a un mouvement qui se met en place. Ça fait plaisir de voir de l'énergie.
Si ça vous dit, on peut peut-être aller plus dans le livre maintenant. Quand on lit le livre, on voit qu'il y a une certaine volonté de ta part à émerveiller, à pas être, enfin, comme tu disais peut-être, enfin, c'est même plus que de la popular science, j'ai l'impression, parce que là, enfin, bon, voilà, il y a une mise en scène, etc. Comment est-ce que t'as mis en place un peu cette idée de mode narratif? Comment est-ce que ça t'est venu? Est-ce que c'est suite aux ouvrages que t'avais pu écrire pour les plus jeunes ou pas?
Non, là c'est une autre idée. La première chose, c'est que le livre est écrit à la deuxième personne. C'est ça que tu veux dire peut-être aussi. C'est le lecteur lui-même qui voyage. C'est vous êtes sur la plage, vous avez votre esprit qui s'envole et c'est vous qui allez visiter l'univers tel qu'on connaît aujourd'hui dans le très grand et dans le très petit. Cette idée-là, elle m'est venue à partir de... L'idée, c'était que je voulais partager mon expérience personnelle. Et il me semble que lorsqu'on est face à son papier et son crayon pour faire de la recherche, c'est l'esprit du chercheur lui-même qui va se balader. Et c'est cette expérience-là que j'ai voulu partager. Que le lecteur fasse l'expérience de la découverte à travers un voyage. Que les découvertes et les connaissances, qu'il se les approprie. Et du coup, évidemment, dans la vie de quelqu'un, ça commence pas forcément. On ne naît pas devant une table de recherche. On est parfois en vacances à la plage, on prend l'avion et tout ça. Et c'est dans tous ces épisodes de la vie quotidienne qu'on peut retrouver une sorte d'émerveillement par rapport à un savoir qu'aucun de nos ancêtres n'avait. Personne. La façon dont on voit le monde aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde tel qu'il était il y a 100 ans. Et quand je dis le monde, là, je parle de la réalité, l'univers qui contient ce dont nous sommes faits, ce pourquoi nous ne traversons pas nos chaises lorsque nous sommes assis dessus et tout ça. De faire une sorte de voyage à travers le gigantesque et le monde quantique, tel que la pensée permet de le faire, d'une certaine manière. Je crois que c'est ce que j'écris dans la conclusion, c'est pas un spoiler, hein, mais en gros, beaucoup de scientifiques ont imaginé des expériences de pensée qui s'appellent des Gedanken Experiments, des expériences de pensée pour se projeter dans un endroit que nos corps n'ont pas accès. Et du coup, en s'y projetant, par exemple, Einstein s'est imaginé assis sur un photon pour comprendre ce qui se passe lorsqu'on voyage à la vitesse de la lumière. Et ben, j'ai repris cette idée-là pour essayer de décrire comment fonctionne le monde, pour aller voir comment fonctionnent les atomes, et ben on rétrécit jusqu'à la taille d'un atome pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur, pour découvrir comment fonctionne la théorie des cordes, et ben on va se balader à l'intérieur d'un minuscule qui est au-delà de ce qui est accessible par nos outils expérimentaux aujourd'hui, mais on y va, la pensée nous permet d'y aller. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en gros, c'est cette idée de partager le voyage et la découverte des chercheurs, en fait.
Ça me fait penser à un autre point, c'est dans l'avant-propos, tu t'expliques que t'as deux ambitions pour ce livre, et notamment une qui est de n'avoir qu'une seule équation, donc c'est la fameuse E égale MC2. Alors pourquoi cette équation? Est-ce qu'elle a un sens particulier pour toi?
Je me suis dit que j'aimerais bien ne pas mettre d'équation du tout. Après, E égale MC2, de nos jours, c'est pas vraiment une équation. Tout le monde la connaît, tout le monde a entendu parler. C'est comme un nom propre qui est familier. Mais si j'avais marqué R mu égale kappa T mu, la relativité générale et tout ça, là, ça bloque l'esprit pour ceux qui ont une certaine phobie des maths ou la crainte de ne pas comprendre, c'est pas la peine de mettre ça. E égale MC2, j'ai pas l'impression que ça va bloquer qui que ce soit. Oui, c'est ça que je m'étais dit.
C'était un peu t'as devancé un peu ma deuxième question, mais c'est pas plus mal. C'était justement, j'ai l'impression que ça fait partie de, enfin, ça sera à toi peut-être de me le dire. Mais les équations dans les bouquins, j'ai l'impression qu'assez souvent c'est banni dans les livres grand public, tout du moins, on va dire de vulgarisation. Alors t'as donné en partie la réponse. Il y a peut-être une problématique de blocage, peut-être que c'est compliqué pour des gens de rentrer dans des mathématiques, peut avoir un niveau peut-être trop compliqué, ou est-ce que juste c'est un principe de base des bouquins de vulgarisation, quoi.
Bah, deux choses. Il y en a... Après, on peut. Moi, je serais pas contre faire un bouquin où il y a que des équations. Pour la raison étant que je trouve ça beau. De même que de regarder un haïku, je sais pas, un parchemin avec des estampes japonaises sur lesquelles la signature est un comment on appelle ça ? Pardon ?
Un idéogramme ? Un kanji ou un idéogramme ?
Oui, une signature dans un langage qui nous est inconnu, que soit le chinois ou le japonais pour ceux qui ne parlent pas cette langue-là, que soit l'arabe pour d'autres, que soit je sais pas quoi, du grec ou du cyrillique. C'est beau. Il y a quelque chose de beau dedans. Mais lorsqu'on voit une phrase écrite en chinois, on se projette pas en se disant « Oh là là, je comprends pas ». Alors que quand on voit une équation, on se dit « Oh là là, je comprends pas ». Au-delà de la beauté de l'équation elle-même de graphisme, disons. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on met des équations dans un livre, pour moi, c'est qu'on n'a pas réussi à l'expliquer en mots. Or, un bouquin de vulgarisation, tel que moi je l'imagine en tout cas, l'idée, c'est de raconter une histoire. C'est de transformer un savoir en une histoire qui est racontée, et du coup, de pas me cacher ou baisser les bras en mettant une équation et en se disant « Regardez, c'est beau, est-ce que vous comprenez ?» C'est pas la même chose. Dès l'instant où c'est comme si, voilà, une traduction de la traduction d'un livre chinois en français, c'est comme si, parfois, quand c'est trop compliqué, on laisse la phrase en chinois. Non, ça marche pas. On peut pas faire ça. Pour moi, dès l'instant où on part dans une traduction, dès qu'on veut raconter une histoire, et bien les équations n'ont plus leur place.
D'accord. Pour avancer un peu dans le livre, tu l'as découpé en 7 grandes parties. La première étant une invitation, entre guillemets, à un voyage de notre bonne vieille terre jusqu'à un fameux mur. Est-ce que c'est pour donner un cadre ou c'est peut-être plus pour teaser les lecteurs de ce qu'ils vont voir dans la suite du livre?
C'est plus pour teaser les lecteurs sur ce qu'ils vont voir, mais c'était surtout que je voulais mettre les lecteurs en confiance. Le voyage qu'on fait dans la première partie, il y a pas mal de petites choses qu'on sait déjà, la Lune, les planètes et tout ça, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il n'y a rien de compliqué. C'est un voyage visuel, cinématographique, on plonge dans une étoile, on voit ce qu'il y a dedans, on se balade dans la galaxie, on voit ce qu'il y a dedans, on voyage dans l'univers jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du tout, qui est une sorte de mur à la fin de l'univers visible. Mais là, ça devient, il y a une interrogation, là, tout d'un coup. Mais ça, c'est, je sais pas, 60, 70 premières pages, je me souviens plus exactement, peut-être un peu plus, où c'est un voyage qui est facile, qui est comme une sorte de rêve éveillé dans notre univers. Et ça, c'était vraiment pour mettre le lecteur en confiance. Parce qu'une fois qu'il a fait ça, eh ben, ça veut dire qu'il a réussi à voyager dans quasi tout ce qu'on voit à travers nos télescopes. Et ça fait du bien. Et après, une fois que cette confiance est acquise, on rentre dans des choses qui sont non pas forcément beaucoup plus compliquées, mais moins familières. Et je pense que la confiance acquise dans les premiers chapitres sert à ne pas du tout bloquer, ou pas trop en tout cas, sur les parties qui sont moins familières un petit peu plus tard, et qui reviennent, dont je parle plusieurs fois pour que ça s'imprègne, etc. Et systématiquement, je le fais sous forme de voyage. Donc c'était plus ça, pour mettre en confiance, et puis c'est une sorte d'introduction visuelle, presque cinématographique à la beauté de ce qu'on voit dans le ciel, en gros.
D'ailleurs, dans cette partie. Et puis, plus généralement, tout au long du livre, tu intègres pas mal d'éléments historiques dans le contenu. Est-ce que pour toi, finalement, on va dire replacer ça dans l'histoire, ça permet de mieux comprendre, en tout cas mieux qu'un simple exposé de l'état de l'art d'aujourd'hui, quoi?
Alors, les petites anecdotes historiques dont je parle, il y a une raison, la plupart du temps, elles arrivent pour une seule raison, quasiment, qui est que parfois je raconte des choses qu'on sait, mais des choses qui sont tellement hallucinantes par rapport à notre intuition de tous les jours, qu'on peut tout à fait se dire, non, mais il est complètement ivre, là, il nous raconte n'importe quoi, et au lieu de ça, je donne l'expérience ou la personne qui l'a découverte et qui, en général, les personnes dont je parle dans le livre, ont reçu le prix Nobel pour ces découvertes-là. Donc ça, d'une certaine manière, ça me permet d'ancrer dans la réalité quelque chose qui peut paraître complètement farfelu.
Donc, comme tu l'expliquais, en fait, dans la suite de cette partie, tu rentres un peu plus en détail dans les théories scientifiques. D'ailleurs, le titre de la partie suivante, Donner du sens au cosmos, est très à propos, je trouve. T'abordes la gravitation universelle, la gravité générale, un peu d'électromagnétisme. Et j'ai l'impression que c'est moins pour expliquer en détail, en fait, les tenants et les aboutissants de ces théories en elles-mêmes que pour aider à la compréhension du sujet. Est-ce que c'est comme ça que ça a été imaginé, enfin, ou pas?
Bah, si, c'est ça que je voulais faire, c'est donner une sorte d'image de ce qu'est de ce que pourrait être la compréhension du grand public de la connaissance du début du XXIe siècle. Le livre n'est pas fait pour que le lecteur se mette immédiatement à gribouiller des équations et aller découvrir des choses, mais c'est pour donner les bases à l'imaginaire de tout le monde pour pouvoir appréhender le cosmos et la réalité telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Ce sera pas la même réalité dans 1000 ans, mais nous aujourd'hui dans notre civilisation et nos civilisations sont basées sur ce savoir-là. Je pense que ça fait du bien de participer au savoir d'aujourd'hui d'une certaine manière.
En fait aussi, je trouve que, tu vois, même sans forcément aller vers des équations, mais enfin, j'ai parlé de l'univers élégant de Brian Greene, mais tu vois, typiquement, ton livre est beaucoup plus abordable, alors que les sujets dont tu discutes et que lui peut discuter sont relativement proches, enfin, identiques, hein, il parle de la réalité générale et autres, mais par contre, c'est beaucoup plus velu à lire et à comprendre. Finalement chez lui, quoi. Alors est-ce que c'est la traduction française que lui lit en lire qui est comme ça, je ne sais pas.
Non, en anglais c'est pareil. En anglais c'est très accessible aussi. L'idée c'était d'avoir un livre qui soit entre ceux qui n'ont jamais rien lu et ceux qui ont déjà lu des bouquins à la Brian Greene ou Stephen Hawking et qui n'ont rien compris à ces livres-là. Et du coup ça donne l'idée c'était d'écrire un livre qui est vraiment accessible à tous ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, soit sans jamais avoir osé en ouvrir un, soit sans avoir compris grand-chose aux autres.
D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que ton livre, il fournit un espèce de tout cohérent sur toute la physique théorique. Mais est-ce qu'il y aurait des sujets que tu aurais aimé aborder et qui n'ont pas été publiés, au final, pour des contraintes soit techniques, soit du sujet, tout court?
Par rapport au sujet du livre lui-même, la fin, là, quand je parle de la gravitation quantique et de la théorie des cordes, c'est un des outils qui est utilisé aujourd'hui pour essayer d'unifier la gravitation et la physique quantique. Mais il y en a d'autres, des possibilités, des domaines de recherche dans cette direction-là, il y en a d'autres que j'ai malheureusement pu que survoler en disant une phrase ou deux pour le mentionner, mais j'ai pas, là pour le coup c'est une question de place, j'ai pas eu la place de rentrer dans tout ça et j'ai pas eu envie que le livre devienne indigeste non plus. Déjà il fait un peu plus de 400 pages, ce qui est pas rien.
C'était une contrainte du départ, ça. Tu voulais faire un livre de 400 pages maximum ou bien tu t'es laissé la liberté d'écrire
C'était 180 pages au départ. Mais ça, c'était un peu absurde. du coup, ce que j'ai fait en fait dans tout le livre, c'est que j'ai essayé de trouver un fil d'Ariane, une sorte de ligne qui m'amène d'un endroit à un autre. Et évidemment, il y a plein de lignes possibles, il y a plein de fils d'Ariane possibles pour raconter toutes ces choses-là. Ben, j'en ai trouvé un. Je dis pas qu'il y en a d'autres, j'en avais d'autres en tête aussi. Et puis au final, c'est celui-là qui s'est imposé avec l'apothéose étant la théorie des cordes, mais il aurait pu y en avoir d'autres. Et c'est pas quelque chose que je regrette du tout. Et puis le livre n'a pas du tout la prétention d'être l'encyclopédie universelle du savoir humain d'aujourd'hui. C'est au contraire d'avoir une sorte d'histoire racontée qui fait une sorte de fil rouge de quelqu'un qui vous tient par la main pour aller traverser ces paysages-là. Et évidemment, il y a d'autres chemins possibles et d'autres livres qui ont été écrits parmi ceux que je connais, plutôt plus compliqués, comme disait David, et moins facile d'accès, même si ça fait des cartons interplanétaires, ou plutôt internationaux. Mais l'idée, c'était une sorte d'introduction au rêve que peut susciter la science aujourd'hui.
Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, il y a deux choses qui sont pas mal, je trouve. D'une part, c'est que tu intègres quand même des résultats relativement récents au sein de ton propos, et aussi que tu expliques un peu comme dans le livre de Bill Bryson qu'il y a des choses. Ben, alors déjà, c'est pas facile la science, ça tombe pas tout cru, et qu'en plus, il y a des choses qu'on sait pas encore, quoi.
Ah bah oui, ouais, fort heureusement. Mais le coup de c'est pas facile la science, la raison pour laquelle je pense que c'est pas facile, c'est pas le côté technique du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce qui est pas facile, c'est d'accepter des choses dans notre réalité qui ne sont absolument pas en accord avec notre intuition. Et c'est d'accepter que nous on vit à une certaine échelle, que l'univers est beaucoup plus grand, que la physique quantique c'est beaucoup plus petit, que les lois de la nature peuvent être différentes dès l'instant où on s'éloigne de ce que nos sens perçoivent. Et ça, c'est à mon avis ça qui est le plus difficile à admettre. Même pour nous, hein, même pour chercheurs, même pour tout le monde, il y a une barrière dans l'esprit qui dit non, c'est pas possible. Mais après, quand on se dit que ce serait extrêmement prétentieux de croire que nos petits corps sont capables d'avoir l'intuition de tout, là, ça paraît plus logique. On est des petits grains de poussière sur une planète qui est minuscule autour d'une petite étoile que dans une galaxie qu'on contient plus de 300 milliards et on en connaît des centaines de milliards de galaxies. Là, on se dit, ah oui, non, mais si ça se trouve, nous, ce qu'on voit, c'est pas exactement pareil. C'est comme si on a toujours vécu à la montagne, loin de tout, à l'intérieur des terres, et qu'un tout d'un coup, on voit de l'eau, liquide, la mer et tout ça. Au début, on se dit, c'est pas possible. Et puis finalement, on s'y habitue et on se dit, ah bah si, l'univers est plus grand, plus beau que juste mon petit coin.
C'est la deuxième partie psychologique. Excuse-moi, ouais. Vas-y, je t'en prie.
Non, vas-y.
Non, j'aime beaucoup comment tu traites cette barrière psychologique dans la forme même du bouquin. J'aime bien le fait que chaque phrase, elle est passée à la ligne. Donc ça rend la lecture très très fluide et ça rend aussi les phrases facilement citables. Donc voilà, t'as aussi des petites bourrées de le livre, il est bourré de petites touches d'humour. Ça et là, je pense en particulier à cette histoire de la tante qui fait des vases dégueulasses, qui revient comme un running gag dans le livre, où le petit robot qu'on rencontre au milieu du livre, petit robot accélérateur de particules qui se trouve être assez sarcastique. Donc il y a une certaine volonté de mettre de l'humour pour mieux faire passer le message. Et le message, il passe très bien au final. Et c'est très important, à mon avis, de se concentrer sur cet élément-là.
L'idée, c'est que le livre soit plaisant. Hein. Et moi, j'aime bien regarder et le savoir et ce qui se passe autour de nous avec humour. Hein. On peut pas tout regarder avec humour comme ça. Même si on peut rire de tout, comme il disait l'autre, mais j'aime bien l'idée de désacraliser des savoirs professoraux en mettant des choses qui sont un peu rigolotes, un peu bêtes, et je pense que je pense comme ça personnellement. Donc c'était pas un effort surhumain. À la limite, c'était même l'inverse parce que j'ai pas mal de blagues qui ont été refusées. Enfin refusées non, on m'a suggéré de surtout les Anglais, ils m'ont suggéré de calmer un peu le nombre de blagues que je mettais parce que j'en avais mis un peu partout et ça cassait un petit peu la concentration par moment. Et je pense qu'ils avaient tout à fait raison. Du coup, j'en ai enlevé plein pour que ça reste assez fluide, mais que ça reste quand même un peu léger par moment. C'est des moments de respiration aussi, ça, où on peut souffler un peu par rapport au voyage qu'on vient de faire.
Il y a eu des soucis culturels en matière d'humour dans la traduction?
Non, bah non. D'autant moins que, voilà, étant français, j'ai fait mes traductions à moi.
Oui, d'accord. Effectivement.
Tu l'as expliqué. Alors c'est vrai que le livre traite alors l'univers à portée de main. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'abordes pas que l'infiniment grand, tu abordes l'infiniment petit. On en a parlé un petit peu. Sébastien a parlé notamment avec le petit robot sarcastique qui nous fait voyager dans l'infiniment petit. C'était la première fois, par exemple, que je voyais dans un bouquin, on va dire, de vulgarisation, cette vision, on va dire, particule d'interaction pour les photons. Je trouve que c'était intéressant, c'était rafraîchissant, parce que j'ai l'impression qu'on voit souvent que la vision photon-particule de, on va dire, particule, voilà, quanta de lumière. Et même si c'est l'infiniment petit, j'ai l'impression que tu rattaches tout le temps les concepts que tu présentes, que tu décris, à l'infiniment grand. Est-ce que c'était une volonté, on va dire vraiment de tous les instants de faire ça, ou c'était quelque chose de, voilà, c'est juste une envie particulière? Est-ce que c'était une vraie volonté de ta part de rattacher ça finalement aux conséquences que ça a sur l'infiniment grand?
Ben, c'est une volonté explicite dans le sens où nous on a des théories pour essayer d'appréhender ce qui nous entoure. On a une théorie pour le très grand, pour ce qui est la gravitation et tout ça, c'est la relativité générale, Newton et compagnie. Et on a une théorie pour le très petit, qui est la physique quantique. Maintenant, notre monde, il n'est pas séparé entre les deux. Ça c'est les outils qu'on a trouvés pour l'instant sont séparés et même ils se parlent pas. Le monde lui-même, il n'y a pas une barrière physique entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il y a une continuité, même si elle est quantique, faite de quanta, etc. Il y a une continuité entre le très petit et le très grand qui forme un tout, qui est celui dans lequel on vit et dans lequel on est apparu. Et une dichotomie entre les deux, ça c'est un aspect théorique. C'est un aspect de simplification pour essayer de comprendre comment ça marche. Je crois que je le marque aussi une partie du bouquin. Le rêve des scientifiques, c'est de trouver quelque chose de simple. Et la première simplicité, c'est de séparer les problèmes. Et on a trouvé des solutions ou voire des images ou des formulations, des logiques qui permettent de comprendre comment marche le très petit, oui. Comment marche le très grand, oui. Comment marchent les deux ensemble, non. Et pourtant, le monde est tel qu'il est, sans cette séparation. Nous, on est fabriqués, on est composés, constitués de choses qu'on pourrait appeler infiniment petites, qui sont ridiculement minuscules, qui n'obéissent pas les mêmes lois que celles auxquelles on a l'habitude de celles de notre quotidien. Et en même temps pour le très grand, voilà. Donc en gros, le but c'est de raconter notre univers, notre monde, notre réalité. La séparation entre les deux, elle est purement théorique et pratique d'une certaine manière. Mais la réalité, il y a pas cette cassure. On n'a juste pas trouvé comment les unifier encore. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire sentir dans le livre.
Au niveau de la question de la simplicité, le seul petit regret que j'ai eu en lisant ce livre, c'était le manque d'illustration. Alors j'imagine que c'est un parti pris qui est lié à la forme du livre, à la structure narrative qui se rapproche du roman et qui va essayer de nous mettre dans un voyage à travers la construction mentale de l'univers. Mais c'était vraiment un parti pris ou s'il y a une contrainte technique à ce niveau-là?
Ah non, c'était vraiment un parti pris. J'avais pas envie que qui que ce soit ouvre le livre, tombe sur une page avec un graphisme ou quelque chose et se dise, oh là, c'est un livre scientifique, je le referme. Mon but, c'était que vraiment tout le monde le lise, que j'ai le même lectorat que Marc Lévy, en gros. J'exagère, mais c'était un petit peu ça. C'était vraiment, c'est un livre, il n'y a que des mots, les mots sont accessibles, c'est accessible à tout le monde. J'ai pas eu envie, j'ai fait exprès et je me suis battu pour qu'il n'y ait pas ces illustrations et ces graphismes. Je suis désolé si ça a causé une frustration chez toi, mais je voulais vraiment que ce soit dans l'imaginaire du lecteur que les schémas se forment. J'ai pas eu envie
Je comprends l'idée.
d'imposer une vision technique finalement ensemble, à cette histoire. Parce que le graphisme était aussi une forme d'équation d'une certaine manière.
Dans cette optique, tu parlais d'unification. Un peu plus loin dans le livre, tu t'essayes de montrer justement cette volonté de pouvoir unifier ces deux grandes théories, puis aussi les forces sous-jacentes d'une part à la gravitation universelle et puis à la théorie quantique des champs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le lien finalement qu'il peut y avoir entre origine de l'univers et cette unification des forces? Parce que j'ai l'impression que c'est un endroit où ces différentes théories se rencontrent et où il faut qu'elles fassent avec, quoi.
Bah oui, et il y a deux endroits comme ça dans notre univers où c'est le cas. Peut-être plus, mais au moins deux dont on est certain. L'idée, c'est ça, c'est qu'on a deux théories. Celle qui nous explique le très grand, la relativité générale, et celle qui nous explique ce dont l'univers est constitué, ce qu'il contient d'une certaine manière, qui s'appelle la physique quantique, la théorie quantique des champs. Quel que soit le nom. C'est une théorie du tout-petit. Maintenant, il se trouve que dans leur formulation, en tout cas technique, mathématique, les deux, on ne peut pas les mettre ensemble. Ça ne marche pas. On a des soucis. C'est comme si, je sais pas, enfin, ça marche pas. Tout explose. Tout devient infini ou n'a plus de sens ou on n'arrive plus à suivre les calculs. Rien du tout, ça marche pas. Alors, on peut se dire, bon. Ben, on s'en fiche. Il y en a un qui est pour le très grand, un qui est pour le très petit. Très bien, c'est comme ça. On n'a pas du tout besoin d'unifier les deux. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que si on prend notre univers en entier, si on prend les découvertes du dernier siècle, on sait que notre univers grandit, est en expansion, et donc qu'avant, il était plus petit. Et en remontant dans le temps, en regardant les étoiles qui sont dans notre univers, on réalise qu'il existe un moment où il était minuscule, c'est-à-dire que le très grand était tout petit. Et du coup, à ce moment-là, à cet endroit-là, au moment-là, c'est un peu la même chose, et ben le très grand était très petit, donc les deux théories doivent marcher ensemble. Et pourtant, ça, on l'a pas. Et c'est pour ça que c'est important, les moments comme le Big Bang. Il y a un autre endroit où on est sûr que le même problème se pose, ce sont les trous noirs, où on a, par définition, d'une certaine manière, énormément de matière, disons, pour certains, des millions, voire des milliards de fois le Soleil, qui sont compressés, comprimés dans des endroits minuscules. On a une fois de plus le très grand qui devient très petit, et pour les comprendre, pour essayer d'appréhender ce qui se passe dans ces endroits-là, on a nécessairement besoin d'une théorie qui allie la relativité générale, disons le très grand, et la théorie quantique des champs, disons le très petit. Et ça, on l'a pas. C'est là qu'intervient la théorie des cordes. Ou la théorie de la gravitation à boucle. Enfin, il y a plein de. C'est ça les différents chemins dont je parlais tout à l'heure pour arriver à cette unification. C'est dans ces endroits-là que la question se pose, que le mystère réside.
D'ailleurs, en abordant ces problématiques, ça te permet finalement de toucher des sujets relativement actuels, matière noire, énergie sombre, comme tu le disais, la théorie des cordes. Est-ce que pour toi, par exemple, la théorie corde, c'est un sujet qui est plus théorique dans le sens moins validé par l'expérience? Est-ce qu'il y a une, enfin, j'ai lu un bouquin de Lismoline où il dit qu'il y a une crise dans la physique, notamment avec la théorie des cordes. C'est quoi ton point de vue sur cette question-là?
Alors, crise dans la physique, je sais pas si je dirais ça, comme Lis Molin, mais il aime bien dire des choses un peu rentrées dans l'art, et puis surtout qu'il travaille sur l'autre théorie, celle de la gravitation quantique à boucle. Mais l'idée de la théorie des cornes, pour l'instant, tu as totalement raison, ce n'est que pure théorie. Et de même pour toutes les autres tentatives d'unification de la gravitation et de la mécanique quantique et du très petit. Pour l'instant, on n'a aucune validation expérimentale d'une théorie plutôt qu'une autre. Ce sont des théories, surtout la théorie des cordes, qui sont extraordinairement riches mathématiquement, qui ouvre sur des domaines qui sont mais gigantesques. Il y a un des pères fondateurs de cette théorie-là qui s'appelle Edward Witten, qui est professeur aux États-Unis, qui est une énorme brute. Il a reçu la médaille Fields pour des travaux qui pourraient correspondre à ce genre de choses. Je crois bien que c'est un des premiers, un des seuls, voire le premier, c'est sûr, le seul, il me semble, mathématicien qui ait jamais, physicien qui ait jamais reçu le prix Nobel des mathématiques. La puissance de feu de ces théories-là est colossale. Mais, comme tu l'as dit, et c'est totalement exact, et personne ne dira le contraire, c'est pour l'instant ce ne sont que pures théories. Mais par exemple, ça pourrait changer, en tout cas la validation expérimentale des mathématiques utilisées pourrait avoir lieu bientôt, je vais vous donner un nom. Un jeune scientifique qui s'appelle Sean Hartnoll, qui est un ancien collègue à moi, et je suis prêt à parier, si vous voulez, que dans les 15-20 ans qui viennent, il recevra un prix Nobel pour avoir découvert quelque chose en superfluidité en utilisant les techniques mathématiques de la théorie des cordes. Il a déjà reçu le prix Milner du meilleur scientifique, jeune scientifique l'année dernière, cette année, là, le dernier prix. Prix Milner, vous voyez ce que c'est, là, c'est le prix du Russe qui veut supplanter le prix Nobel en offrant, je crois que c'est 10 millions de dollars le prix.
C'est pas lui qui a financé le programme qui prend la suite de SETI, là? C'est pas lui?
Si,
Si, c'est
si,
lui.
si, c'est lui.
Qui a mis 100 millions de dollars?
Ouais, c'est ça.
Qui a de l'argent qui encombre, faut croire.
Tant que ça sert à ça,
Ah bah c'est sûr, hein.
vaut mieux vaut, c'est, si, quand de l'argent est dépensé comme ça, moi je suis content. Plutôt que de s'engraisser dans des comptes, on sait pas trop où, au moins là, ça sert à quelque chose pour l'humanité. Alors, on fait une petite parenthèse là. Mais personnellement, je suis absolument pas contre que ces gens-là s'achètent une notoriété, s'achètent je sais pas moi, une éternité, tout comme Nobel a pu le faire, en offrant, dépensant, je sais pas quoi, ça peut être pour leur com, j'en sais rien, mais pour quelque chose qui correspond à de la recherche fondamentale et qui est complètement soumise au droit de la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de copyright sur ce qui sera trouvé grâce à cet argent. Nobel, soit dit en passant, il a fait sa fortune en créant la dynamite, hein. Donc, toutes les bombes, tous les machins qui ont été, tout le nombre de bavards, mais on le souvient pourquoi? Pour le prix Nobel qui est un formidable.
Qu'il a créé justement parce qu'il s'en voulait d'avoir créé la
Donc,
TNT, quoi.
ouais.
Ce qui est pas si mal finalement, c'est plutôt donner des bonnes choses aussi.
Ah, là, on rentre dans de la philosophie morale. Je sais pas quoi dire, mais en tout cas, par rapport à, disons, d'où que vienne cet argent, le canal vers lequel il s'engouffre maintenant, pour moi, il est totalement justifiable.
Surtout que le SETI, elle avait bien besoin, jusqu'à maintenant, elle était un peu en rade de sous ces dernières années. Alors,
Bah, je crois que
se relayer avec les contrats de l'armée américaine.
pour ceux qui se souviennent pas, le SETI là, c'est en gros a été cofondé par Carl Sagan et ça fait partie des c'est la recherche de vie extraterrestre intelligente. Et effectivement, ils ont construit un énorme télescope radio qui est au milieu de la forêt, qui est gigantesque, qui est apparu dans James Bond d'ailleurs, et qui, faute de moyens, ne peut servir leur but de recherche potentiel de détection de signal extraterrestre intelligent qui ne peut s'en servir que quelques heures par an parce qu'ils n'ont pas l'argent pour avoir leur propre télescope. Et grâce à des sous comme ceux de Milner ou d'autres, la part qui sera allouée à la recherche de vie extraterrestre intelligente, ça va être beaucoup plus grande.
Et pour finir sur le livre, pour toi, c'est dans quel domaine, quels vont être les, si tu devais parier au-delà de ton collègue sur quelque chose, c'est quoi la prochaine grande découverte que tu aimerais voir dans ce domaine-là?
Alors dans le domaine de physique théorique, on peut y revenir dans deux secondes, mais dans le domaine de la science en général, moi je prie les esprits pour qu'on découvre, détecte justement ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire la vie extraterrestre intelligente quelque part, voire extraterrestre tout court, pas forcément intelligente. Mais déjà si on découvre de la vie ailleurs, moi je serais bien content d'avoir vécu à cette époque-là. Je trouve ça génial. Après par rapport à la recherche fondamentale de physique théorique, de loi de la nature, oui, un petit pas dans la direction de l'unification de la gravitation et de la physique quantique, avec vérification expérimentale, je trouve assez extraordinaire. Parce que les idées qui sont brassées dans ces unifications potentielles sont tellement dingues. On parle d'univers parallèle, de dimensions supplémentaires, de etc., etc., et c'est digne de la plus farfelue des science-fiction. Si on avait une affirmation ou une confirmation quelconque qu'une de ces directions est correcte, moi je trouverais ça complètement extraordinaire. Mais peut-être que je tripe un peu et qu'on n'y est pas encore.
On est sur la bonne voie.
En tout cas, on y travaille.
Ok, moi j'ai pas d'autres questions sur le livre. Sébastien, est-ce que tu en aurais?
Alors moi j'ai posé toutes mes questions qui ont été brièvement répondues, donc je suis satisfait.
Alors Christophe, à ce moment-là, j'ai le classique du podcast. À chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient, je lui demande quel serait le livre qu'il aimerait bien lire, un livre qui n'a rien à voir.
Ah oui, mais c'est pas facile ça comme question. Qu'est-ce que j'ai comme livre que j'ai pas eu le temps de lire encore? Je préférerais à la limite vous retourner la question et vous dire qu'est-ce que vous me conseilleriez de lire, parce que je suis toujours en quête de nouveaux livres. En gros, moi j'adore les livres pour me détendre, etc. Les romans d'aventure, je trouve ça absolument... J'adore.
Niveau roman d'aventure, il y a un livre que je lis en ce moment qui est absolument fantastique et qui va être transformé en film dans quelques mois, qui s'appelle Seul sur Mars, d'Andy Weir, qui est un énorme best-seller, mais qui est un best-seller de qualité, parce que c'est un livre de hard science qui parle d'un homme coincé sur Mars pendant au moins un an, et ça raconte l'histoire de son sauvetage, et c'est absolument très très bien écrit, avec beaucoup d'humour, donc je conseille à tout le monde, et à toi en particulier.
Plutôt le livre que le film, alors.
Les deux, mais j'ai pas encore vu le film, donc je pourrais pas le dire. c'est Ridley Scott qui le réalise, donc.
Et c'est Matt Damon, non, qui est...
Et c'est Matt Damon qui se retrouve encore une fois sur une planète tout seul.
Ouais, il a fait ses preuves dans Interstellar, et puis il part là-dessus. Eh ben, merci. Je suis désolé, David, j'ai pas de... Et il faut pas le croire que ce soit de la... Que je pense qu'il y a aucun livre qui soit digne d'être lu, hein, mais j'ai pas de... Il n'y a rien qui me vient à l'esprit là comme quelque chose. En général, quand j'ai un livre que je veux vraiment lire, je le lis. Donc.
En fait, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai des piles trop grandes de livres que j'aimerais bien lire. J'arrive pas à tous les lire.
Ah oui.
Mais comme elle n'est jamais assez grande, c'est pour ça que je demande toujours s'il n'y a pas des livres qui seraient à conseiller.
Écoute, on fait un podcast.
Bah écoute, tu l'as probablement déjà lu, mais je l'ai lu déjà, donc c'est pas quelque chose que je rêve de relire, même si c'est vachement bien, mais le Copenhague de Michael Frayn, tu l'as lu ça?
Ah non.
Ah bah alors là, tu peux y aller. Et l'avantage, c'est que il fait à peine 100 pages. Et c'est extraordinaire.
Alors comment
c'est une pièce de théâtre, mais ça se lit comme un livre.
Et comment tu écris son nom?
Frayn.
D'accord. Matt
Frayn. Et Copenhague, c'est sur ça relate la rencontre entre Heisenberg et Bohr en 1941, il me semble, en plein milieu de la guerre, où Heisenberg c'est sous fond de découverte de la bombe atomique. Et c'est complètement dingue. Avec Heisenberg qui était dans le camp nazi et Bohr qui était dans le camp allié. Et qui parle de ça. C'est génial.
D'accord, bah écoute, un ouvrage de plus dans ma liste, parfait. Très bien, bah écoute, en tout cas, merci d'être venu. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et avec toi, Sébastien.
Ah ben merci à vous.
Ben merci à vous aussi.
Histoire de bien répéter, si les auditeurs veulent l'acheter, qu'ils le fassent, qu'ils se dépêchent. C'est L'univers à portée de main, donc Christophe Galfard chez Flammarion, et en plus, pour tout ce qu'il y a dedans, pour 19,90, c'est pas cher. Donc,
L'univers pour 19,90. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait une version de poche, t'as vu?
Ah oui, oui, ça c'est sûr. Il a fait un petit carton cet été, le livre. Il a fait, je crois, 15 ou 16 semaines dans le top vente de best-seller en non-fiction. Donc, normalement, ça fait plaisir aussi de voir que c'est pas une lubie ou une fantaisie de ma part, cet intérêt du grand public pour ce genre de choses. C'est vrai. Oui. Et du coup, oui, il devrait y avoir un poche, mais dans un an, peut-être un an et demi.
Et est-ce qu'il y a une version électronique? Parce que j'ai des connaissances à moi qui ne jurent que par ça.
Oui, il y en a.
Parfait. Parfait, parfait.
Et pour vos amis anglais, il est donc sorti en anglais. Et en anglais, il s'appelle The Universe in Your Hand. Et c'est chez Macmillan.
Très bien. Bah écoute, merci pour tout. Et puis, bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein.
Merci en tout cas pour vos questions et pour ce que vous faites.
Merci Christophe, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.